Alors j'aimerais vous parler un petit peu aujourd'hui du mystère de l'Ascension. C'est quelque chose d'extrêmement grand dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de notre foi chrétienne. Saint Léon le Grand disait « C'est une fête glorieuse et joyeuse. Le Christ reçoit sa gloire unique et nous une joie toute particulière. C'est l'achèvement et l'accomplissement de toutes les autres fêtes et le rebaptisement de l'itinéraire du Fils de Dieu. » Voilà, c'est une fête, on la voit comme ça, je me souviens d'un... C'était avec le cardinal Etchegaray un jour chez le Saint-Père. Il dit, Saint-Père, on vous raconte beaucoup d'histoires, un peu beaucoup de théories devant vous, beaucoup de discours. Moi, je vous raconte une petite histoire différente une fois. Alors Saint-Père, il lui dit, allez-y. Et puis, cardinal Etchegaray lui dit, voilà, c'est Jésus qui monte au ciel à l'Ascension. Et puis, il rencontre l'archange Gabriel qui le croise. Et Gabriel est tout heureux de le revoir, vous imaginez, c'est la fête. Il voit Jésus qui monte, il l'accueille comme ça, les bras grands ouverts. Gabriel s'étonne en disant, mais Jésus, je ne comprends pas très bien, parce que tu viens de réaliser le mystère de l'amour, de mourir, de ressusciter. Tu montes au ciel et la terre, elle est toute noire. Tout est ténèbres, il y a juste une petite lumière là, à Jérusalem, et je ne comprends rien du tout. Et Jésus lui dit, ça c'est ma mère et mes frères, et mes disciples qui sont là, mes apôtres, qui prient, et puis qui attendent le grand don. J'ai un plan extraordinaire, tu sais, j'ai un plan extraordinaire. Mon plan, c'est que retourner chez le Père, j'enverrai l'Esprit Saint sur mes apôtres, toute la terre sera embrasée de ce feu de l'Esprit Saint, la terre sera illuminée. Alors Gabriel, qui connaît un petit peu les hommes depuis le temps qu'il nous voit vivre, s'est dit, il y a un petit problème dans son plan, parce que les gens ne vont pas tellement accueillir aussi facilement que ça l'Esprit Saint. Alors il dit à Jésus, écoute, je ne voudrais pas être pessimiste, mais qu'est-ce qui se passe si ton plan, ça ne marche pas? Et Jésus lui dit, je n'ai pas d'autre plan. Voilà. Un seul plan, lui le Fils unique est descendu épouser notre humanité pour la porter au sein de la Trinité et au cœur et au sein de la Trinité. Voilà qu'il va envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit qui est l'amour du Père et du Fils, pour nous donner un esprit filial. Alors la fête d'Ascension, vous comprenez bien, c'est l'aboutissement, on le verra tout à l'heure, de cette descente de Dieu dans les enfers. Alors historiquement, l'Église a célébré la fête de l'Ascension en lien immédiat avec la Pentecôte. On a célébré la Pentecôte, Saint Jacques Chrysostome disait, c'est la métropole de toutes les fêtes. C'est la fête des fêtes, la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Mais on ne dissociait pas dans les premiers temps de l'Église l'Ascension et la Pentecôte. On célébrait le 49e jour, l'Ascension, et le 50e jour, c'est-à-dire la perfection, 7 fois 7 plus 1, la fête de la Pentecôte. Et puis, petit à petit, à partir de la fin du 4e siècle, on a commencé à célébrer de manière particulière la fête de l'Ascension et à lui donner un sens extraordinaire. À Jérusalem, par exemple, il y avait une grande procession vers les années 380, où la fête a commencé à être célébrée. On montait sur le mont des Oliviers, là où le Christ est monté, au ciel, enfin, l'endroit historique reconnu. Et puis, tout le monde fêtait et célébrait cette fête. Voilà. Dans l'église latine, à Rome, par exemple, on célébrait aussi la fête avec grande faste. Et à Milan, il y avait des symboles qu'on utilisait. Par exemple, dans le rite ambrosien de Saint Ambroise de Milan, eh bien, le cierge pascal était porté dans la voûte de la chapelle après la lecture de l'évangile. Le cierge pascal étant le symbole du Christ qui jaillit dans les ténèbres de la nuit de Pâques comme lumière pour éclairer le monde. Et à ce moment-là, le cierge pascal était ascensionné et il montait au ciel comme ça. Voilà. Puis après, on l'éteignait, puis c'était fini. Il était mis à l'écart puisque le Christ était présent d'une autre manière au cœur de ses apôtres par la lumière intérieure qui rayonne chez ceux qui ont accueilli le Christ. C'est à l'intérieur là que le Christ est. La lumière, elle est à l'intérieur. C'est la Pentecôte qui va là jeter ce feu sur la terre des hommes, dans la chair des hommes, pour que le Christ éclaire et illumine de l'extérieur toute l'humanité. Au Moyen-Âge, eh bien, on a instauré, dans l'Église latine aussi, on prenait une icône du Christ ou une statue du Christ, et puis on la montait aussi avec des cordes, comme ça, jusqu'à la voûte céleste, pour symboliser cette ascension du Christ. Là, la liturgie essaie d'exprimer ce qui s'était passé. C'est insuffisant pour dire tout le mystère de cette fête. Le symbole ne dit pas ce qui s'est réellement passé. Alors que s'est-il réellement passé le jour de l'Ascension, quelque part à Jérusalem, dans les années 30, 33, comme ça. Voilà. Voilà qu'après la résurrection du Christ, pendant 40 jours, c'est les actes des apôtres qui nous disent ça, mais là aussi, les versions ont peut-être un peu été modifiées au départ, mais toujours est-il que 40 jours, c'était dans la tradition rabbinique, le nombre d'enseignements que devaient faire les rabbins pour apprendre vraiment à leurs disciples quelque chose. Les rabbins, dit-on, répétaient 40 fois ce que les disciples devaient vraiment maîtriser. Et bien, le Christ est resté 40 jours pour enseigner ses apôtres dans la perfection de l'enseignement afin qu'ils puissent vraiment, après étant complètement instruits par le Christ, aller porter cette bonne nouvelle à toutes les nations. Voilà. Alors, à ce moment-là, le Christ est saisi dans une nuée et cette nuée va le transporter au ciel où il va être coupé de la vue de ses apôtres à ce moment-là. Il est dit dans l'Écriture sainte, personne n'est jamais monté aux cieux, sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. On a ce moment de la descente, de la montée. On le verra tout à l'heure. Et le Christ monte comme grand prêtre des biens à venir. Il devient le centre, l'agneau de Dieu qui prend place à la droite du Père et qui est adoré par les anciens, les prophètes, par les saints, par les vieillards. Enfin, cette immense liturgie céleste qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Voilà que c'est le Christ, agneau de Dieu, immolé et glorieux, marqué de ses stigmates dans la gloire de la résurrection, qui est au centre de toute la liturgie du cosmos tout entier, puisque le cosmos tout entier va adorer celui par qui tout fut créé et celui qui a tout racheté. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, alors que le Christ soit monté à la droite du Père, qu'il soit là pour nous? Eh bien, d'abord, dans la spiritualité chrétienne, c'est une source d'espérance extraordinaire, parce que nous appartenons au Christ. Le Christ est la tête droite du Père, et nous sommes le corps du Christ. Voyez-vous, il y a une sorte de communion au bien du Christ. C'est l'espérance. Nous allons pouvoir goûter, nous aussi, de la joie du ciel. Alors on verra aussi tout à l'heure ce que cela veut dire, qu'il s'agit donc d'être unis intimement au Christ pour recevoir dès aujourd'hui cette grande joie. Donc l'ascension du Christ signifie à la fois une espérance extraordinaire, divine, surnaturelle, et en même temps une grande joie dans la mesure où nous sommes unis au Christ, nous restons collés au Christ. C'est ce qu'a toujours retenu la liturgie de l'Église et les fêtes de l'Église, la joie très profonde des amis de Dieu, parce que la vie de la tête, le Christ, tête du corps qu'est l'Église, est déjà la nôtre. Et finalement, le bonheur infini que notre humanité, unie à la divinité du Christ, jouit au ciel, dans la Sainte Trinité, découle également sur nous. Et vous, on verra encore tout à l'heure ce que cela veut dire. Alors, un père de l'Église disait, nous pouvons bien résider sous les nuages, soumis à toutes les tempêtes, mais déjà notre cité se trouve dans les cieux. Nous nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transfigurera notre corps de misère pour le transformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir se soumettre toutes choses. Il cite Philippiens. Voilà. Et déjà, la communion eucharistique nous fait participer à cette joie du ciel. L'Église a toujours voulu manifester cette joie. Et dans la liturgie syrienne, par exemple, on reprend le symbole pour expliquer l'ascension, le symbole du brebis, du berger qui vient chercher la brebis perdue. La brebis perdue, disent-ils, il y avait 99 brebis qui étaient restées, c'est les anges. Il y en a une qui s'est cassée la figure, c'est l'homme. Et voilà que le berger descend du ciel, il vient prendre la brebis sur ses épaules, c'est notre humanité, pour la porter au ciel, vers le Père. Voilà. Et la liturgie byzantine aussi a ce chant. Ô Christ, après avoir chargé sur tes épaules la nature égarée, nature humaine égarée, nous, tu t'es élevé et tu l'as présenté à Dieu le Père. Et saint Augustin dit que quand le Christ monte au ciel, il semble nous crier, fortifiez-vous dans cette espérance, que cette espérance soit l'objet de tous vos désirs, de tous vos efforts. Pensons souvent sur la terre que nous sommes déjà du nombre des élus au ciel. Personne n'est remonté que celui qui est descendu, quoi qu'il soit remonté avec ce qu'il n'avait pas en descendant. Bien sûr, il est descendu, le Verbe, en bas il a pris chair de la Vierge Marie et il est remonté avec notre humanité. Il se laissait inséparable maintenant. Alors il est descendu avec ce qu'il n'avait pas en remontant. Et ce qu'il n'avait pas en montant, en descendant, c'est notre humanité. Voilà. Alors il remonte avec notre humanité, bien qu'il soit descendu sans corps et qu'il soit remonté avec son corps et que nous devons y monter nous-mêmes, non par nos propres forces, mais en vertu de l'union étroite que nous avons avec lui. Car nous sommes deux dans la même chair. Voyez-vous, c'est la gage de notre espérance, c'est que Dieu a épousé notre humanité pour la porter au ciel. Notre humanité, notre chair à nous, glorieuse, la nôtre qui sera aussi glorieuse un jour, elle est au sein de la Trinité. Quelque chose d'extraordinaire, c'est un mystère à frémir, il faisait frémir tous les saints de joie et de bonheur. Alors, bien sûr, les anges aussi. Vous savez, on dit que la tentation des anges, l'épreuve des anges, a été au début, Dieu leur a montré l'incarnation. Et les anges ont dit, c'est pas possible. Lucifer a dit, c'est pas possible. Quand Dieu se fasse homme, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, pas ça. Il est en train de... Ça marche pas, ça. si tu veux changer de nature, prends la nature angélique, au moins elle est belle, mais tu vas pas te mettre dans la chair quand même, dans la matière, pas possible. Et c'était la tentation des anges. Alors il dit, ensuite l'homme a été tenté par les anges, a quitté le paradis, et les séraphins gardaient la porte du paradis. Alors saint Jean Chrysostome nous dit, voyez-vous, ces pauvres anges, ceux qui sont restés fidèles, étaient tout tristes de voir cette nature humaine déchue, de devoir interdire l'accès au paradis à l'homme, parce que c'est là qu'ils voulaient qu'il soit. Alors enfin, par le Christ qui remonte au Père, l'humanité remonte dans le paradis du ciel, dans le cœur de Dieu, et les anges peuvent enfin se réjouir. Ils n'ont plus besoin d'interdire l'entrée, au contraire, ils peuvent forcer l'entrée de l'homme, pousser les hommes à rentrer. Allez-y, venez tous, les bénis de mon Père, venez dans la maison du Père. Et les anges, avec leurs ailes, on les voit pousser les hommes à rentrer au ciel, qui est leur vraie patrie, leur vraie demeure. Dans la liturgie de l'Ascension, il y a cette prière qui est faite. L'Église a vu son époux dans la gloire. Elle a oublié les souffrances endurées au Golgotha. Au lieu du poids de la croix qu'il portait, c'est une nuée de lumière qui le porte maintenant. C'est la louange des anges qui l'accueille. Il faut fermer les yeux pour découvrir ça. C'est un mystère de la foi que l'on saisit les yeux fermés, mais qui est extraordinaire. Saint Augustin lui-même dira, se rend dans le véritable amour, qui est l'amour qui se réjouit du bien de l'autre. Alors quelle joie on peut recevoir du fait que le Christ soit monté au ciel. Comment ne pas y trouver une source de bonheur, puisqu'entre amis s'établit une intercommunication des biens. On s'échange les biens que le Christ, quand on aime l'autre pour lui-même, c'est-à-dire pas pour soi, pas pour sa possessivité, pas pour son petit bonheur à soi, hein, mais qu'on aime l'autre pour lui-même, alors on se réjouit de la joie de l'autre. Et le bien de l'autre devient le mien. Patrick Delobé nous disait l'autre jour, dans une famille, quand quelqu'un est promu à un grade particulier au niveau humain, ben on est assez content, quoi. On est fier du fiston, du tonton, ou du neveu, ou je sais pas quoi, enfin. Voilà, de l'autre qui a reçu une médaille, il a même un truc, il a gagné un titre, voilà. C'est bien, voilà, on est fier dans la famille. Combien plus dans la famille des bons dieux sera-t-on fier et heureux de voir le Christ à la gloire du Père à sa droite, siégeant avec pour l'humanité. Voilà. Donc si on rentre dans l'amour qui se réjouit du bonheur de l'autre, alors ce bonheur vient sur nous. Si on pense qu'à nous, si on se replie sur nous, si on se referme sur nous, on n'aura jamais ce bonheur. On n'aura pas ce bonheur. Voilà. Alors pour parvenir à ce degré d'amour, à ce bonheur, et c'est saint Augustin qui nous le dit, il faut à la fois l'oubli de soi, s'oublier soi-même. Ça c'est un vieux truc, on le connaît. Hein, Saint Nicolas de Fus disait, mon Seigneur et mon Dieu, arrache de moi tout ce qui m'empêche d'être à toi, mon Seigneur et mon Dieu, accorde-moi tout ce qui peut me rapprocher de toi, mon Seigneur et mon Dieu, délivre-moi de moi-même et prends-moi tout entier pour toi. C'est ça, l'oubli de soi. Puis il dit, mais c'est pas suffisant encore, il faut rentrer par la foi dans le mystère de Jésus-Christ. Voilà. Et alors là, découvrir cette parole du Christ, il est bon pour vous que je m'en aille. Quand je rentre dans la foi, dans le mystère du Christ, j'entends cette parole qui vibre en moi, qui résonne en moi, tout au fond de mon âme, il est bon pour vous que je m'en aille. Et donc je suis heureux que le Christ soit monté au ciel pour recevoir l'Esprit Saint qui me fait partager la vie divine. Et alors saint Augustin continue en disant, finalement, les hommes avaient des pensées un peu trop humaines sur Jésus-Christ. Ils ont un peu accolé à lui de manière un peu affective, comme ça, et puis ils aimaient bien l'avoir au milieu de lui, c'était très rassurant. Et Jésus, par son ascension, veut aussi les éduquer. Il y a une pédagogie divine à travers l'ascension, pour apprendre à ses disciples de poser sur le Christ un regard spirituel, à le regarder comme le Verbe du Père, Dieu en Dieu, par qui toute chose a été faite. Il conclut en disant, je me dérobe extérieurement à vos regards, il met ses paroles dans la bouche du Christ, mais je vous remplis intérieurement de ma présence. Est-ce avec ce corps visible, avec cette chair, que Jésus-Christ entre dans notre cœur? Non, c'est par sa divinité qu'il se met en possession du cœur. Il parle au cœur par le moyen de la chair et lui fait entendre ses divines leçons. Voilà, le Christ vient habiter en nous. Il est bon pour vous que je m'en aille, pour que je vienne dans la puissance de l'Esprit-Saint faire ma demeure dans vos cœurs. Et là, il est plus intime à nous-mêmes qu'il l'était auparavant lorsqu'on le voyait sillonner la terre. La liturgie mozarable conclut cette parole en disant, tu es descendu vers les réalités humaines sans abandonner les réalités célestes, tout en devenant homme, Jésus est resté dans le sein du Père, et il est resté uni au Père dans sa divinité. Tu es retourné vers le Père sans déserter les réalités humaines, tu restes au milieu de nous, par ton corps eucharistique, par ta présence dans le cœur des hommes, par ta présence au milieu d'une communauté qui prie. Tu es partout tout entier et partout admirable. Saint Jean Chrysostome prend une image en disant, voyez-vous, Élie est monté sur un char de feu au ciel. Et puis en partant, il jette son manteau sur Élisée pour faire d'Élisée son prophète et son successeur. Ben, le Christ monte sur une nuée, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires pour Jésus. Hein, il est saisi, aspiré de là où il était venu. Et voilà que sur tous les disciples du Christ, sur chacune et chacun d'entre nous, on reçoit le manteau du Christ pour être prophète de Jésus-Christ. C'est des millions de prophètes, dit Saint Jean Chrysostome, qui vont se lever comme ça. On a contemplé, j'allais dire, le mystère du Christ qui monte, contemplé cette gloire du Christ à la droite du Père, contemplé ce qu'il était venu faire en cherchant notre humanité pour la monter vers le Père. Quelles sont les conséquences pour nous aujourd'hui de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, l'ascension de Jésus? Premier point, c'est que quand les apôtres ont vu Jésus monter au ciel, ils sont restés là plantés, les yeux aussi levés. Et les anges les engueulent un petit peu. Non pas parce qu'ils regardaient vers le ciel, on verra que c'est important de continuer à regarder vers le ciel, mais parce qu'ils restent plantés là. Ils s'arrêtent. Ils ne vont pas plus loin. Ils refusent de bouger. Ils refusent d'obéir. Ils refusent d'avancer. Et ça, c'est la tragédie. Ça, c'est la tragédie de la vie spirituelle. Quand on refuse d'avancer, quand on refuse d'aller plus loin. Il y a un urgent appel dans la vie spirituelle à ne pas rester sur place. Il y a deux possibilités dans la vie spirituelle. On avance ou on recule. Le surplace, ça n'existe pas. Et l'important, voyez-vous, c'est pas à quel degré on est arrivé, c'est dans quel sens on marche. On peut être au début d'une vie spirituelle, si on va dans le sens du bon Dieu, c'est bien. On peut être déjà bien avancé dans la vie spirituelle, mais si on recule sur le chemin, on paraît plus avancé. Saint Grégoire de Nice dit dans la vie de Moïse cette chose admirable. Il dit, on ne peut pas voir Dieu face à face parce que voir Dieu, c'est mourir. Alors il dit, pourquoi Dieu dit-il cette parole à Moïse? Il dit, pour une raison très simple, c'est que quand on voit Dieu face à face, c'est qu'on marche à contresens. Si on suit le Christ comme il nous est demandé de le faire, si on suit Dieu comme il nous est demandé de le faire, on verra que si on le voit face à face, eh bien c'est la mort, parce qu'on ne prend pas le chemin de Dieu, on va dans le chemin de la mort. Mon Dieu, il passe là, et vous savez, c'est Saint-Pierre à Rome. Il y a une église à Rome, sur la Via Appia Antica, qui s'appelle l'église du Covadis. Et la tradition nous dit que le jour où il y a eu les persécutions à Rome, ce cher Saint-Pierre s'est dit, « Ouh, ça chauffe ici, allons voir ailleurs si le ciel est plus serein. » Alors il se casse de Rome, et voilà que Jésus arrive en sens inverse. Saint-Pierre voit Jésus en disant, « Mais Covadis domine, où vas-tu, maître ?» Jésus dit, « Je retourne à Rome me faire crucifier. » Saint-Pierre se gratte la tête et dit, « Attends, mince, c'est mon tour !» Alors il fait demi-tour et il retourne à Rome. Il y a les empreintes du Christ là, qui a croisé le Saint-Pierre dans cette Via Appia Antica sur la pierre. « Covadis domine, où vas-tu, maître ?» Il l'a vu face à face. Et d'ailleurs, il y a une très belle histoire avec ça que me racontait un Vietnamien, un prêtre qui a passé 10 ans en prison au Vietnam. Il y a un auteur polonais, Adam Sienkiewicz, qui a écrit le roman Covadis. Il y a un film qui a été tiré de ça. Et c'est les premières persécutions des chrétiens, la conversion enfin, vous avez peut-être vu le film ou le livre, la conversion des esclaves, la conversion des persécutés, comme ça, ou des gens qui, en voyant les chrétiens persécutés, rayonnant la joie et chantant les louanges de Dieu, sont tellement saisis qu'ils deviennent chrétiens. Et alors, dans un camp de travaux forcés au Vietnam, on a vu le nom Sienkiewicz. On a dit, tiens, c'est un Polonais. Polonais, c'est communiste. Donc, c'est un livre de propagande communiste. On a distribué le livre d'Adam Sienkiewicz pour la propagande communiste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, lisant le livre, se sont dit, mais c'est nous, ça. Et ils allaient chez les chrétiens qui rayonnaient la joie, chez les prêtres, pour se faire baptiser. Il y a des baptêmes clandestins en raison de ce livre Covadis de Sienkiewicz dans ce camp de travaux forcés des rizières du Vietnam. Dieu se sert de tout et où. Voilà. Alors ce que je voulais dire à travers ça, ne pas s'arrêter. Un chrétien qui s'arrête est un chrétien qui meurt dans sa vie spirituelle. Deuxième point que je voulais relever, c'est l'humilité. Jean-Paul II avait dit la tâche des théologiens, dans une encyclique qui s'appelle Fides et Ratio, la foi et la raison. Encyclique un peu forte comme ça, donc destinée aux intellectuels. La tâche des théologiens intello, eh bien, c'est d'approfondir le mystère de la kénose de Dieu, c'est-à-dire de ce Dieu qui se vide de lui-même. Kénose, c'est un mot grec qui veut dire se vider. Ce Dieu qui descend, c'est tout l'hymne aux Philippiens. Lui, de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'homme, se faisant esclave, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a exalté et l'a placé au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame qu'il est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Alors on voit cette descente vertigineuse du Verbe de Dieu, et cette remontée. Et juste avant, Saint Paul nous dit, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. » Ayez en vous les mêmes sentiments qui est dans le Christ Jésus. Deux points, lui de condition divine n'a pas retenu. Voilà l'humilité de Dieu. L'humilité, c'est pas de se mettre à carreau, c'est se faire petit. À la place que Dieu voudra pour nous, mais c'est de se faire petit. Voilà. Alors, Saint Bernard nous dit, l'humilité, c'est la clé de la vie spirituelle. C'est la voie par laquelle il nous faut partir, il nous faut aller vers le Christ. Dans cette descente du Christ, Jésus a déployé toute sa force, parce qu'il est puissance de Dieu. Alors, voyez-vous, la force, la puissance de Dieu est manifestée dans ce petit enfant. Petit enfant dans la crèche, crucifié sur la croix. Christ présent au Saint-Sacrement de l'autel. Voilà la puissance de Dieu, la force de Dieu. Et dit-il, dans cette montée, dans cette ascension, il manifeste sa douceur parce qu'il est sagesse. Or la sagesse, c'est de pénétrer les choses de l'intérieur pour goûter combien Dieu est bon et remettre les choses dans la perspective de Dieu. La perspective de Dieu, c'est que Dieu soit tout en tous. Voilà l'achèvement du plan de salut. Il est descendu, il n'est pas tombé, dit Saint Bernard. Il n'est pas tombé, pof, il est descendu. C'est-à-dire que quand on descend, on marche par degrés. Comme ça. Il dit, alors il y a trois degrés de la descente du bon Dieu. La première, il est descendu du ciel sur la terre. La deuxième, de la terre à la croix. Et la troisième, de la croix à la mort. Voilà, les trois degrés de la descente. Il conclut en disant, en mettant ces paroles dans la bouche de Jésus, qu'aurais-je à faire que je n'ai déjà fait? Tout est accompli, là. Alors, dit-il, que signifient ces trois degrés pour notre vie à nous? Le premier, c'est renoncer à dominer. Renoncer à vouloir imposer. Renoncer à vouloir commander. Renoncer à dominer. C'était ce à quoi Lucifer n'a pas réussi à résister. Lucifer a crié, j'escaladerai les cieux par-dessus les étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône et je ressemblerai au Dieu très haut. C'est une parole d'Isaïe que Saint Bernard met dans la bouche de Lucifer, cette exaltation de vouloir se placer au-dessus de Dieu, de dominer à la place de Dieu. Bien voilà, c'est la tentation de Lucifer quand on veut dominer. Renoncer à dominer, premier degré d'humilité, de Dieu qu'il était, il se fait homme, serviteur, esclave. Deuxième degré d'humilité, accepter de se soumettre. D'homme qu'il était, il accepte d'aller jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ceux qui n'ont pas résisté à cette tentation, qui n'ont pas voulu se soumettre, c'est Adam et Ève. Dieu leur avait bien dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre. De tous les autres, vous pouvez manger, sauf de celui-ci, car vous mourrez. Ils ont préféré l'orgueil de leur volonté à la volonté de Dieu. À obéir pour la vie, pour leur vie. Et troisième chose, troisième degré d'humilité, dit-il, c'est supporter d'un cœur égal, dans cette soumission, tous les affronts, toutes les injures que l'on peut nous infliger. Que la paix du cœur et la joie du cœur ne nous quittent pas, quelles que soient les circonstances, c'est de la croix à la mort. Le Christ, sans un gémissement sur lui, sans une larme sur lui, sans un repliement sur lui, il n'y a pas une phrase qui dit « Mais arrêtez, c'est pas possible, pourquoi vous me faites ça ?» Il n'y a pas un mot comme ça qui sort de la bouche du Christ, voyez-vous. Chaque parole est une parole d'amour pour ceux qui sont là. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. J'ai soif de votre amour. » Rien que des paroles pour nous que le Christ prononcera. C'est cette chose-là, et ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, dit Saint Bernard, quand, après avoir fait un bout de chemin de foi, eh bien, on renonce à persévérer quand ça devient difficile, quand il y a l'épreuve, quand il y a les purifications, quand il y a les nuits qui peuvent arriver. On veut bien un petit bout sur le chemin du bon Dieu, mais dès qu'on se dit, bon, écoute, là, ça devient un petit peu escarpé, ça commence à monter, c'est plus l'autoroute, c'est le chemin de montagne, ok, je me casse, ou je fais la pause, j'irai voir plus loin. Voilà. On refuse d'aller dans ce degré d'humilité, qui est le degré dans lequel le Christ est rentré. Alors dit-il, une fois qu'il est descendu les trois marches de l'humilité, il remonte pour aller dans la gloire du Père. Mais il faut aller au fond de la vallée fertile de l'humilité. Si on n'est pas là, c'est pas possible, vous comprenez bien. Alors quels sont les trois degrés de la montée? Eh bien, le premier, c'est la gloire de la résurrection. Le deuxième, c'est le pouvoir qu'il a de juger toutes choses. Et le troisième, c'est la place qu'il s'est acquise à la droite du Père. La mort a été engloutie dans la victoire du Christ. Alors dit-il, que cela signifie-t-il pour nous? La première chose qui répond au fait qu'on puisse supporter les injures dans la paix du cœur, c'est l'innocence de l'action. C'est d'agir avec un cœur détaché. D'agir sans intérêt propre. De se livrer. La prière de Saint-Ignace de Loyola est très belle. Il faut, donne-moi d'agir sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais ta sainte volonté. Aide-moi à agir sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais ta sainte volonté. Deuxième chose, c'est la pureté du cœur qui permet de se soumettre à tout ce que Dieu voudra. Cette transparence. Le cœur pur, ce n'est pas le cœur qui est son péché, c'est le cœur qui accepte que Dieu soit Dieu dans sa vie et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Le troisième fruit, c'est le service dévoué. c'est le qui répond au mépris du goût de la domination. Je suis livré pour les autres. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie, elle est livrée au Christ. Elle est crucifiée avec le Christ. Ma vie dans la chair, je la vis unie au Christ qui est Jésus. Saint Bernard se fonde sur le psaume 23 pour citer ces trois degrés d'humilité. Dans la tradition de l'Église, on reprend aussi, je fais juste en parenthèse comme ça, les béatitudes pour montrer cette ascension de l'âme vers Dieu. Comment se fait-elle? D'abord, la première étape initiale et incontournable, c'est l'humilité, c'est la pauvreté. La première béatitude, bienheureux les pauvres. Avoir conscience de son besoin, avoir conscience de sa radicale nullité, de sa radicale pauvreté. Comme ça, j'ai besoin de Dieu. Voilà, c'est ça l'humilité. Deuxième chose, c'est la repentance, les pleurs. Bienheureux ceux qui pleurent, ils pleurent leurs péchés. Troisième étape, troisième marche, c'est la douceur qui nous permet d'avoir un esprit nouveau en nous, esprit de douceur, qui n'est pas un esprit mou. Il a dit bienheureux les doux, non pas bienheureux les mous. Il y a une différence, vous comprenez? Ah, parce qu'aujourd'hui, on croit que... Ah, alors, on est là, on se promène comme des larves en disant, moi je suis un doux. Mais non, tu es un mou. Faut pas confondre. Ah, les saints sont des doux, mais Dieu sait quelle énergie. Quand les mères Teresa trottaient, ben, je peux vous dire que vous pouvez vous accrocher. Hein. Il fallait y aller pour suivre. Malgré ses 85 ans ou 89 ans, il fallait s'accrocher pour tenir le rythme. Ah, ce n'était pas des mous, c'était des doux. Voilà. Quatrième degré, c'est la croissance. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est l'appétit. Je désire. Le langage de l'amour, c'est le désir d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et puis... il y a la miséricorde. Voyez-vous, je peux bien désirer, mais il faut que Dieu me fasse miséricorde, il faut que Dieu rentre dans ma pauvreté. Il faut une irruption de la miséricorde de Dieu dans ma misère. Sans cette irruption, je ne vais pas pouvoir accéder à cette vie de bonheur que Dieu me promet. Bienheureux les miséricordieux. Bienheureux les cœurs purs. Dieu nous appelle à aller au-delà de la moyenne, au-delà des forces humaines, dans la vie surnaturelle qui dépasse tout. Et enfin, à septième degré, bienheureux les pacifiques. On va pouvoir rayonner cette paix à ce moment-là, goûter intérieurement cette paix, parce que le Christ aura établi son règne en moi, et le règne du Christ en moi est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. Et voilà que cette paix va irradier autour. Ben, la huitième béatitude, c'est la configuration au Christ dans la perfection, c'est-à-dire dans la souffrance. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Alors, c'est aussi huit autres marches qui nous font passer dans l'ascension spirituelle. Premier point, ne pas s'arrêter. Deuxième point, l'humilité. Troisième point, il faut regarder les choses d'en haut. Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Colossiens. De même, du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui. Plein de gloire. Recherchez les choses d'en haut. C'est à la messe, on dit à un moment donné, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Dans la liturgie latine, on disait sursum corda. Et saint Augustin a dit, alors, le diacre vous dit sursum corda, élevons votre cœur, vous le dites, nous le tournons vers le Seigneur, et vous restez planté la tête en bas, comme ça, arrêtez vos problèmes et vos orteils. Alors il dit, c'est un problème là. Est-ce que vous croyez ce que vous dites à la liturgie? On va rentrer dans le ciel, parce que le Christ va manifester le ciel dans sa présence réelle sur l'autel. Il va être là, présent. C'est pas le ciel qui descend, c'est la terre qui monte au ciel. Donc on est avec les anges et les saints dans la liturgie céleste. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire aux yeux de la foi, pas aux yeux de nos chairs, bien sûr. Et vous restez planté dans vos petits problèmes de la terre. C'est pas pour nier les problèmes de la terre, c'est pas pour fuir la terre, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est que quand on est planté sur les problèmes de la terre, la topinière devient une montagne. Pour la souris, la topinière, quand elle a les yeux plantés dessus, ça paraît l'Everest. Quand on a le regard du ciel, la dent de morcle, elle a une perspective. On voit l'environnement, on voit qu'il y a d'autres montagnes à côté, on voit qu'il y a un ciel, on voit qu'il y a un horizon. Si on voit l'horizon, ça veut dire qu'il y a une espérance de dépasser la montagne. C'est quelque chose de plus haut, de plus grand que la montagne. Dès qu'on a le regard du ciel, quand on regarde le monde à partir de l'autel, à partir du Saint-Sacrement, il y a un autre visage, il y a une autre perspective qui est donnée, plutôt qu'à partir du problème. Ça change complètement les choses. Le nez planté sur la topinière fait une montagne, je ne vois plus rien que le tas de terre qui est devant moi. Si je prends le regard de l'autel, là où le Christ a vaincu, plus rien ne pourra s'opposer à cette victoire du Christ, alors les montagnes deviennent des topinières. Pas par mes propres forces, mais par la grâce de Dieu, qui m'est donnée en abondance. Sursum corda, haut les cœurs, comme haut les mains, hold up, haut les mains. L'expression c'est ça, haut les cœurs, levez les cœurs. Levez votre regard, ne restez pas planté avec votre regard fermé sur vous. Quatrième point que nous donne l'ascension après ce haut les cœurs, eh bien, c'est l'intercession. Saint Jean écrit dans sa première épître au chapitre 2, « Petits enfants, c'est nous. » T'es âgé quand il a écrit ça, hein ?« Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père. » Il est pas mal, hein ?« Jésus-Christ le juste. » Alors il est là auprès du Père, il a ses plaies, et dit « Père, miséricorde, à travers mes plaies, fais couler ta tendresse sur l'humanité, que cette tendresse de mes plaies place dans la blessure de tes enfants sur la terre. » Il y a une circulation entre les plaies du Christ et nos blessures. Et par ces plaies, la tendresse du cœur de Père va couler jusque dans nos cœurs blessés. Seulement, il faut accueillir qu'on est blessé, il faut accepter qu'on soit malade pour recevoir la guérison du médecin des âmes. Voilà. Il dit, c'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous, on a aussi un avocat, un paraclet, le défenseur, qui nous est donné. Donc, on a deux avocats. Un qui est au ciel, à la droite du Père, qui intercède pour nous en le montrant ses plaies à son Père, qui deviennent la source, la porte de la miséricorde. Ce que Jean-Paul II avait dit dans l'année sainte, le cœur ouvert du Christ est la porte de la miséricorde de Dieu sur la terre et sur les hommes. Voilà, elle est là cette porte sainte, la véritable porte sainte, qui elle ne s'est pas fermée le 6 janvier dernier, mais qui est toujours ouverte dans tous les temps, et même en surabondance en ce temps où le monde a tellement besoin de la miséricorde. Et puis on a l'Esprit Saint en nous, qui nous fait crier, soif de cette miséricorde, soif de cet amour, j'ai soif Seigneur Jésus, le défenseur qui est en nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si le Christ intercède, c'est qu'il faut rentrer dans cette intercession. Il faut commencer à prier pour l'humanité entière, intercéder pour le monde entier. Je le disais, il y a une première chose que l'on peut faire, c'est que quand le prêtre élève l'hostie après la consécration, voilà, il le montre à l'adoration, c'est le Christ qui est là, dans ses mains. Comme disait curé d'Ars, je ne sais pas si je te verrai pour l'éternité, mais maintenant je te vois et je te tiens. Là, je ne te lâcherai plus. Alors, quand le prêtre élève, c'est une ascension. Par le Christ, l'humanité entière et l'univers entier montent vers le Père. Le Christ est descendu, rejoint de l'homme dans sa pauvreté, sa misère, jusqu'aux enfers. Ayant saisi l'homme, il remonte. C'est un sauveur. Les gens qui sont pris dans la grotte, là-bas, qu'ont fait des plongeurs, les deux qui sont allés les trouver, eh bien, ils ont plongé 8 mètres de siphon. Et puis ils sont allés de l'autre côté pour rechercher ces personnes et les faire ressortir avec eux. Ça c'est humain, c'est beau. Il y a quelque chose de la générosité du cœur de l'homme qui est prêt à risquer sa vie pour aller sauver des personnes qui sont en danger. Mais le Christ, il a payé de sa vie. C'est jusqu'au bout. Il a livré sa vie. Car il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce n'est pas pour cette vie périssable qu'il a fait ça, mais pour la vie immortelle. À l'ascension, lorsque le Christ monte au ciel, on va crier avec le Christ, Père miséricorde, Père fais couler ta tendresse sur le monde entier, que coule en fleuve d'eau vive à travers le cœur palpitant du Christ, transperce au Saint-Sacrement la miséricorde du Père sur tous les hommes. Il faut ce cri du cœur des chrétiens pour que le monde soit inondé de la miséricorde, autrement le monde va crever. Quelqu'un disait, si les chrétiens ont froid, le monde claque des dents. Il y a une sorte de mystérieuse symbiose entre l'Église, le peuple des chrétiens et le monde. L'Église est cette perle précieuse choisie au cœur de l'humanité. Le Concile Vatican I disait, l'Église est un quasi-sacrement. Il est le signe et le moyen de l'union de l'humanité avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'Église, sacrement, signe et moyen efficace du salut de tous les hommes. Mais si l'Église, et donc nous les membres de l'Église, nous n'assumons pas notre rôle en communion avec le Christ, bien le monde va crever, vous comprenez, il va mourir, et il meurt ce monde. Donc il faut que les chrétiens se ressaisissent aujourd'hui et deviennent avec le Christ avocats auprès du Père, par l'Esprit Saint avocats au milieu de nous, des intercesseurs pour le monde entier. C'est ce que Jean-Paul II avait dit. Dans les épreuves que traverse l'Église d'aujourd'hui, la sécularisation, marginalisation de la foi, crise des vocations sacerdotales et religieuses, difficulté pour les familles de vivre le mariage chrétien, il nous faut rappeler le besoin de prière. Les grâces de renouveau ou de conversion ne seront données qu'à une Église en prière. Comment s'est faite l'intercession du Christ pour le monde? quand il est descendu et quand il est remonté. Elle s'est faite par l'offrande de sa vie. Par l'offrande de sa vie. Eh bien, c'est par l'offrande aussi de notre vie que les choses vont pouvoir se manifester. Offrir, c'est trouver un couronnement à notre existence. Quand on est prêtre, en offrant notre vie en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, on devient roi. C'est ça le sacerdoce royal. On est couronné en s'offrant nous-mêmes, prêtre, offrant notre vie en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Mère Teresa disait, mais qu'est-ce que ça veut dire offrir? Quand elle demandait à ses coopérateurs souffrants, vous savez que chaque sœur est doublée, j'allais dire, d'une personne qui souffre quelque part, sur un lit d'hôpital, dans un home de personnes âgées, dans une clinique, et qui offre ses souffrances pour la sœur qui annonce l'évangile aux plus pauvres. Et alors Mère Teresa disait, qu'est-ce que ça veut dire offrir vos souffrances? Eh bien, elle a cette parole bouleversante, souriez. Offrir ses souffrances, c'est sourire. Je sais que j'ai offert ma vie quand je souris. Souris aux événements, pas parce qu'ils me plaisent, pas parce qu'ils sont bien. Elle le dit, souriez à Jésus au milieu de vos épreuves. Souriez à Jésus au milieu de vos épreuves. Voilà ce que ça veut dire offrir ses souffrances. C'est simple, hein. On a cherché, théologie, on cherchait longtemps pour savoir ce que ça voulait dire. Mère Teresa a trouvé en un mot la réponse. Voilà. Je vous lis un petit texte ici qui est assez bouleversant. C'est Jean-Paul II qui l'a écrit. Il va prendre peut-être une actualité toute particulière en ces temps. « Seigneur, voilà plus de 65 ans que tu m'as fait le don inestimable de la vie. Et depuis ma naissance, tu n'as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini. Au cours de toutes ces années, se sont entremêlées de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde. » Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers toi. Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d'avoir été l'objet de ton amour. Mon âme te chante sa reconnaissance. Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que tu éprouves fortement. Elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n'ont plus la force de te prier. D'autres ont perdu l'usage de leurs facultés mentales et ne peuvent plus t'atteindre à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens, je me dis, et si c'était moi? Alors Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés, motrices et mentales, je t'offre à l'avance mon acceptation totale à ta sainte volonté. Et dès maintenant, je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, physique ou mentale, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant, si je te demande de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide à ce moment. Si un jour la maladie devait même envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si un jour un état d'inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant toi pour chanter tes louanges éternellement. Amen. Eh bien, 105 ans, il a fait l'offrande de ses capacités motrices et mentales. Les capacités motrices lui sont déjà enlevées. Il est l'homme de souffrance qui porte le monde parce qu'il a offert cela. Avec le sourire qu'on lui connaît. Peut-être ses facultés mentales vont-ils aussi lui être enlevées, mais ce sera encore bien plus beau, parce que chacune de ses heures sera une suite ininterrompue d'actions de grâce, jusqu'au dernier soupir, qui sera un soupir d'amour. Voyez combien Dieu sauve le monde. Il n'a pas demandé des Schwarzenegger ou des gens en pleine forme. Il sauve au cœur de la misère, parce qu'il devient canal de grâce, ayant offert cette pauvreté à Dieu. Voyez-vous, comment offrir, comment être intercesseur dans le monde? Il n'y a qu'une manière d'être intercesseur. C'est la manière que le Christ a faite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu du ciel. Il s'est fait homme. Il a épousé l'homme dans la misère de sa pauvreté. Parce que la mort est la mort sur la croix. Descendu jusqu'aux enfers, là où l'homme est séparé de Dieu. Pas pour l'éternité, mais dans ce temps d'attente. Voilà qu'il vient saisir l'homme dans ses blessures. Dieu l'a fait pécher. Pas pécheur, mais péché. Il vient, Dieu l'a identifié au péché, c'est un mystère insondable que de dire ça. Quand Saint Paul le dit, on en frémit presque. Voilà, qu'il assume tout de l'homme pour avec cela tout remonter vers son Père. Avec tout ça, dans la transfiguration de la victoire que lui donne sa résurrection. Comment Dieu a-t-il intercédé en épousant la misère? Eh bien, comment nous allons-nous intercéder? Eh bien, de la même manière. C'est la béance de notre misère, de notre pauvreté, qu'on va sans cesse offrir et inlassablement au mystère pascal du Christ. On va sans cesse offrir notre misère que le Christ a greffée sur lui, greffée en lui, pour que dans cette béance de notre misère puissent rentrer les flots de la miséricorde. Voilà. Et notre béance de notre misère sera unie à la béance de la misère de tous nos frères et sœurs. Je vais me sentir solidaire du monde entier, solidaire de tous les pauvres, solidaire de toutes les misères du monde, quand je greffe ma misère sur celle du Christ. Et à travers cette greffe, j'allais dire, les flots vont couler de moi à l'humanité entière blessée et souffrante. Voilà comment va se faire le mystère de l'intercession. Hein ? Se savoir en communion avec les pécheurs, cela donne une grande paix, la paix de la vérité. Ce n'est pas une condescendance, c'est savoir que je suis là, seul. L'intercéder, c'est pas faire l'assaut du Seigneur, faire Seigneur, 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 viens, 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 viens. Hein? Comme si Dieu était une citadelle qu'il faut vaincre, essayer d'avoir. Non, la citadelle, c'est nous. Et Dieu, il frappe à la porte de notre cœur. Il faut capituler. Il faut se laisser faire, se laisser envahir. Il faut baisser les barricades, baisser les protections que l'on met devant l'œuvre de Dieu dans nos vies pour que Dieu puisse vraiment agir en nous, complètement agir en nous. Voilà ce que Dieu veut faire. Hein, c'est cette œuvre-là qu'il veut accomplir en nous. Voilà. C'est une sœur qui disait ça. Ce qu'il y a donc de merveilleux, de comblant dans cette intercession, c'est que son succès, son efficacité ne dépend absolument pas de ce que nous sommes. D'une certaine façon, plus je me sens partie prenante de la lourde masse du péché, même la moins intéressante, je pense à la tiédeur, au refus, aux trahisons larvées, qui font obstacle à l'avance du règne du Christ dans ma vie et dans le monde, plus je me sens pétri de cette même glaise, plus je peux servir de point d'atterrissage à la miséricorde du Seigneur. Et qu'est-ce qui va me réveiller alors? Parce que je peux dire, bah alors je suis passif, j'attends tout. Non, c'est les autres. Saint Dominique qui passait ses nuits entières en pleurant. Seigneur, qu'adviendra-t-il des pécheurs? Saint François qui pleurait en courant le monde. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Voilà. Voilà ce qui va être l'aiguillon qui va me faire avancer. L'intercession. Le monde a urgemment besoin de l'intercession. Hein? Et c'est l'univers entier qui va recevoir cette miséricorde. Pas seulement nos frères et sœurs humains, mais l'univers entier qui va être racheté. C'est tout ce que saint Paul nous dit dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Quatrième point de cette ascension. Que dit l'ange aux apôtres? Il leur dit, il va revenir dans la gloire comme il est parti. C'est l'attente de la parousie, l'attente de la venue en gloire du Christ. Les premiers apôtres n'arrêtaient pas d'attendre. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Ils étaient là, saint Paul dit, Seigneur, vous mariez, il va arriver bientôt. Donc, on va perdre son temps en quelque sorte. Ils disaient, c'est tellement urgent d'annoncer le royaume des cieux que... Mais dans quelques jours, il est là. Puis après, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait comme ça. Alors on dit, bon, on va construire. Mais attendons le Seigneur qui vient dans la gloire. C'est pas de la folie. C'est du réalisme spirituel. Hein. Cardinal Newman avait cette phrase, ce texte très très beau. Le Christ nous met en garde expressément contre une sécurité orgueilleuse. S'il est vrai que les chrétiens ont attendu Jésus sans qu'il vienne, il est tout aussi vrai que quand il viendra réellement, le monde ne l'attendra pas. S'il est vrai que les chrétiens ont imaginé des signes de sa venue alors qu'ils n'en avaient point, il est également vrai que le monde ne verra pas les signes de sa venue quand ils seront présentés. Ces signes ne sont pas tellement évidents que vous n'avez point à les chercher. Tellement évidents que vous ne puissiez vous tromper dans votre recherche. Et vous avez le choix entre le risque de penser voir ce qui n'est pas ou celui de ne pas voir ce qui est. Il est vrai que bien des fois, à beaucoup d'époques, les chrétiens se sont trompés en croyant discerner la venue du Christ. Mais mieux vaut mille fois croire qu'il vient quand il ne vient pas qu'une seule fois croire qu'il ne vient pas quand il vient. Telle est la différence entre l'Écriture et le monde. À suivre l'Écriture, nous serions toujours dans l'attente du Christ, et à suivre le monde, nous ne l'attendrions jamais. Or, il doit venir un jour, tôt ou tard, et ça se rapproche toujours plus. Hein. Je ne suis pas prophète en disant ça, c'est la pure logique mathématique. Les esprits du monde raillent notre manque de discernement aujourd'hui, mais qui aura manqué de discernement triomphera alors. Celui qui aura manqué de discernement triomphera alors. Que va-t-il se passer à cette venue en gloire du Christ? Il y a deux mystères qui vont s'affronter. Saint Paul nous le dit dans la première épître à Timothée, il y a le mystère de la piété. Pour attendre le Christ, il faut rentrer dans le mystère de la piété. Or, le mystère de la piété, c'est quoi? Il s'est manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, enlevé dans la gloire, monté au ciel dans la gloire. Voilà le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est Jésus en personne. C'est l'obéissance à la volonté du Père. Eh bien, pour attendre le Christ dans la gloire, il faut être obéissant à la volonté du Père. Il faut se comporter comme des enfants de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Thérèse de l'Enfant Jésus est docteur de l'Église aujourd'hui pour enseigner aux hommes l'attitude nécessaire pour attendre la venue en gloire de Jésus. Qui est une attitude d'enfant de Dieu. Non pas d'orphelin qui désespère ou d'enfant rebelle qui rejette papa et qui veut faire la force du poignet, mais d'enfant qui accepte que son Père lui dise une parole de vie et une parole de bonheur. Ah, c'est ça. Ce Père du ciel qui nous entraîne. Et puis il y a le mystère de l'impiété qui est à l'œuvre aussi. Et ça, il y a une parole assez impressionnante. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. C'est le refus de se comporter comme des enfants de Dieu. C'est le refus d'accepter la seigneurie de Dieu. Le refus d'obéir à Dieu et regarder le monde d'aujourd'hui quand il refuse Dieu. Canal de Lubac disait, il n'est pas vrai que l'homme ne puisse pas bâtir un monde sans Dieu. Mais s'il bâtit un monde sans Dieu, il le bâtit contre l'homme, nécessairement. Et regardez les cadavres qui sont au bord de nos routes, au bord de nos civilisations, au bord de nos sociétés. Le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Qui retient ? Plusieurs interprétations. On pourrait dire peut-être que Jean-Paul II est celui qui retient ce mystère de l'impiété par l'offrande de sa vie. Alors, avant cette parousie, avant cette vie en gloire, il y aura deux choses qui vont se passer. D'abord, un grand moment d'espérance, une situation de l'amour, et puis les grands combats de la fin des temps. Et le pape disait, voyez-vous, les apôtres à l'ascension sont des sentinelles, ils regardent. Ils vont agir et ils vont regarder. Eh bien, Jean-Paul II avait ce texte merveilleux, il disait, sentinelle, où en est la nuit ? Dites-moi où en est la nuit, sentinelle. Et nous entendons cette réponse venir. Entendez-vous ? Les sentinelles élèvent la voix ensemble. Elles crient de joie parce qu'elles voient de leurs yeux le retour du Seigneur dans Sion. Leur généreux témoignage à tous les coins de la terre annonce qu'à l'approche du troisième millénaire de la rédemption, on y est dedans, Dieu est en train de préparer un grand printemps chrétien dont nous entrevoyons déjà le début. Et Marie, l'étoile du matin, nous aide à redire avec une ardeur toujours nouvelle le fiat à la volonté salvatrice du Père pour que tous les peuples et toutes les langues puissent contempler sa gloire. Voilà ce qui est annoncé. Voilà ce que nous sommes appelés à être au cœur de ce monde. Dernier point que j'aimerais relever pour conclure, il faut demeurer avec Marie parce que l'ascension, eh bien, nous prépare à la Pentecôte. Les apôtres sont là encore enfermés au Cénacle avec Marie, attendant ce que le Christ a promis, cette fameuse descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est venu une fois à la Pentecôte ne cesse pas de venir. Chaque Eucharistie, dit Jean-Paul II, est une nouvelle Pentecôte. Chaque fois que le Christ est élevé de terre comme ça, eh bien il envoie l'Esprit Saint sur le monde. Il y a une effusion de l'Esprit Saint à chaque élévation, à chaque messe. L'Esprit Saint vient envahir le cœur, vient envahir les hommes, envoie les apôtres, efface les péchés, raffermit ceux qui sont attiédis, relève ceux qui sont tombés. Il donne le feu à ceux qui veulent bien accueillir cette grâce, ceux qui ne se ferment pas sur eux-mêmes, se blindant à l'œuvre de Dieu. Et alors à ce moment-là, il faut prier pour que la Pentecôte descende. Et nous sommes avec Marie dans l'intercession permanente de cette nouvelle Pentecôte. Voilà pourquoi Marie est très importante dans ce temps que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on a tellement besoin de cette nouvelle Pentecôte pour que le monde resplendisse de la gloire de Dieu. Que le Christ puisse revenir dans la gloire et que enfin Dieu sera tout en tous. Amen.